sur Chablais.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Maud Guilvillème, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, vous avez écrit un livre aux éditions Favre dont on va parler, du scalpel au pinceau. On est dans ce mois d'octobre rose, vous y racontez votre expérience de soins, hein, d'un cancer du sein qui vous a frappé. On va évidemment en parler très largement, un peu le lieu où on se rencontre d'abord. Hein. Vous m'avez donné rendez-vous au Col des Planches, au-dessus de Martigny.
Oui, effectivement. C'est un lieu que j'aime vraiment beaucoup. C'est une des plus grandes forêts de mélèzes d'Europe. C'est un endroit que je trouve vraiment somptueux. Et on a commencé la balade au Chemin des Mines, un endroit que j'affectionne tout particulièrement par sa forêt, les morceaux de lumière qui rentrent. C'est une balade que j'aime beaucoup faire pour me détendre, pour me relaxer où je me ressource beaucoup.
On verra que vous avez vraiment envisagé d'ailleurs le sous-titre, hein, c'est Carnet de voyage d'un parcours de soins. Vous avez vraiment envisagé ça comme un parcours pas facile évidemment, hein, qu'il faut mener à son terme, que vous avez découvert des trucs sur vous, sur votre vie, comme tous ceux qui traversent ce genre d'épreuves, j'imagine. La forêt, la ressource, la nature. Moi, je vous ai vu, on a marché peut-être une petite heure avant de s'arrêter pour discuter. Je vous ai vu regarder des champignons, des oiseaux. C'était déjà le cas avant ou il y a tout à coup quelque chose qui s'accentue?
Oui, c'est une bonne question. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri pendant cette année de voyage, comme le livre le dit. J'aime bien dire que c'est la méditation de pleine conscience de l'hyperactif. J'aime bien toujours avoir la tête occupée, essayer de reconnaître les oiseaux, voir un champignon, essayer de toujours apprendre quelque chose. Ça me permet aussi, moi, d'avancer.
On verra si vous avez des choses qui ont changé dans votre vie, hein, après ce parcours-là. On précise, on l'entend, que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez traversé ce que traversent les femmes qui sont malades, qui doivent aller au travers de ce chemin difficile. Je précise, parce qu'on ne vous voit pas, que vous êtes plutôt jeune. C'est une nouvelle qui vous est tombée dessus, jeune.
Oui, j'avais 42 ans quand j'ai appris la nouvelle, donc je me considérais encore comme immortelle.
Alors vous considériez, et les statistiques aussi, alors pas comme immortelle, mais enfin oui. Les statistiques vous donnaient pas dans les femmes a priori à risque.
Oui, absolument. Disons que les mammographies, ils les préconisent maintenant à partir de 50 ans, donc c'est quand même de l'ordre du coup de bol qu'on les trouvait, surtout que j'étais pas très assidue sur mes contrôles gynéco, donc je considère que j'ai eu de la chance en fait que ça a été découvert aussitôt.
Votre aventure commence déjà avant de parler de l'aventure en elle-même, l'idée d'en faire quelque chose, d'en faire une œuvre, une création. Vous écrivez bien sûr, mais vous peignez aussi, vous faites des montages, des collages. C'est assez agréable à lire. C'est vraiment un journal de bord. Ça vous est venu pendant, ça vous est venu après, comment ça va?
Le lendemain du diagnostic, j'ai vu ma belle-sœur et je lui ai dit je vais faire un carnet de voyage de cette histoire. Donc la volonté, elle est venue très vite. Ensuite, pendant l'année de traitement...
Parce que c'est très détaillé, hein, il y a les heures. Moi, je me suis dit en lisant, si elle a commencé le job 2 ans après, c'est qu'elle avait une bonne mémoire de comment ça se passe. Non, c'est au jour le jour.
Ouais, alors j'ai noté. Hein. J'ai noté, je prenais des notes, mais j'ai commencé à rédiger une année après. J'y arrivais pas en fait pendant l'année. D'ailleurs, ça m'énervait un peu. J'étais un peu frustrée. Mon niveau de dessin, il n'était pas dingue non plus. Donc, j'ai beaucoup dessiné pendant cette année, mais du coup, j'ai fait des progrès. Et la mise en page, la mise en mots, beaucoup des dessins qui sont dans le livre ont été faits à partir d'une année après la nouvelle du diagnostic.
Bon, la nouvelle du diagnostic, c'est étonnant. Elle tombe le 8 mars, journée du droit des femmes. Pour le coup, on peut. D'habitude, il faut vraiment faire attention à dire journée du droit des femmes. Là, on peut dire journée de la femme. Hein. C'est quand même symboliquement intéressant. Il y a un moment où vous dites, finalement, quand ça tombe dessus, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne va plus avoir de cheveux à un moment donné et que ça va être très dur. Quoi. On ne sait pas grand-chose quand on n'y est pas passé. Hein.
Non, on ne sait pas grand-chose. Et puis, c'est le seul truc visible de tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand on a... que, entre guillemets, la radiothérapie, ben, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de soi. Et le fait d'avoir ses cheveux qui tombent, c'est quelque chose de visible à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup, aussi pour l'entourage éloigné, en fait. Dans la rue, les gens, ils vous regardent différemment. Enfin, c'est quelque chose de particulier, quand même.
Il faut trouver la façon. Hein. Vous avez trouvé, vous, le foulard, oui. Un certain type de foulard, une certaine façon de l'attacher. Vous avez deux enfants. J'ai bien aimé leurs remarques hein, tout au long du livre. Ça vous remet les pieds sur terre.
Ah,
quoi,
oui, ça,
quand
c'est
on
bien,
dit « Oh non, mais tu seras moche sans tes cheveux. Je pense que je t'aimerai un peu moins.
» Ouais, mais alors, elle le savait pas, mais on s'est aimé tout autant pendant tout ce parcours.
La sotte.
C'était... ouais, mais c'était merveilleux de les avoir, les enfants, parce que ces sorties-là, moi, ça permet de reprendre du recul. Ça me permettait d'aller voir mon mari et de lui dire « Tu sais pas ce qu'ils m'ont sorti, là ?» et qu'on puisse rire, en fait, de pas mal de choses. Et moi, ça me faisait du bien de rire. C'était important. C'est important pour moi de rigoler. Hein.
On le sent, on l'entend. Vous êtes photographe. Hein,
oui,
ça,
oui.
C'est votre métier. Et vous dites, mon niveau de dessin n'était pas terrible parce que vous faites beaucoup de dessins. Vous dessinez aussi ce parcours avec les textes, bien sûr. Pourquoi pas la photo ? Je me suis posé la question.
C'est une bonne
question. Je me suis dit, vous auriez pu illustrer ce livre avec du travail photographique. Vous auriez pu passer des heures sur Photoshop plutôt que derrière un pinceau qui, a priori, n'était pas votre truc. Quoi.
Elle me plaît, cette question, parce que la photo, on voit tout. Et en fait, au début, quand j'ai commencé à essayer, j'ai fait des petites BD dans le livre. Et au début, je voulais faire des BD où on me voyait en fait, de face et j'y arrivais pas. C'était toujours un peu dramatique, en fait. Et la photo, ben, il y a un rendu en fait, visuel qui fait que on voit tout. Et moi, j'avais envie de laisser le loisir au lecteur de s'approprier en fait, et de vivre la lecture comme il l'entendait.
Moi, j'ai imaginé aussi, avant de vous rencontrer, que la photo, ça se retouche sur un ordinateur quand on n'est pas bien, quand on a eu des médicaments, quand on a des effets secondaires rudes. Se mettre derrière une toile avec des pinceaux, ça peut être relaxant. Se mettre derrière un écran, je l'imagine beaucoup moins. Hein, ça peut être les maux de tête, etc.
Oui, c'est vrai que de prendre un pinceau, en plus l'aquarelle, j'adore ça parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise avec de l'eau. Et puis l'aquarelle, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et j'aime bien essayer cette manière, cette approche. D'essayer de faire quelque chose avec quelque chose qui finalement s'autogère à moitié et les pigments dans l'eau, de voir ça voyager, moi ça m'a fait beaucoup de bien pendant ce parcours.
Carnet de voyage, journal de bord, ça veut dire un peu au jour le jour. Alors parfois vous sautez des jours ou des semaines hein, quand ça se justifie.
Serait,
mais ça veut dire aussi que vous avez une vraie réflexion sur ce parcours-là. Hein. Vous posez des questions sur vous-même, sur comment vous appréhendez les choses, sur comment les autres vous regardent, etc. Je trouve intéressant que vous l'ayez vécu en temps réel, en fait. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui, j'ai de la peine à répondre à cette question-là, comme ça. Je ne sais pas quoi
c'est
vous dire.
C'est qu'elle n'est pas bonne. On va en changer, vous inquiétez pas. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a... traverser une épreuve, traverser la maladie, ça peut être passif, ça peut être actif aussi. On peut décider d'en faire quelque chose. Alors, vous en faites un ouvrage, hein, c'est concret, c'est quelque chose. Mais sans aller jusque-là, on peut aussi décider, regardons ce qui m'arrive et regardons comment je le prends, comment je l'envisage, etc. Et pas seulement comme une victime, même si on pourrait s'y complaire.
Oui. Ouais, alors moi, j'aime bien me dire que je suis maître de ma vie, quoi, et que c'est moi qui décide. Donc là, de pas avoir décidé ça, c'était une manière de faire quand même quelque chose que moi je décidais d'en faire quelque chose. Je suis assez positive. J'aime bien voir le verre à moitié plein. C'est vrai que là, il s'est quand même pas mal vidé. Puis du coup, c'était une manière d'essayer de prendre le positif de tout ça. Oui.
De le re-remplir un petit peu au compte-goutte. Hein.
Ouais, c'est ça.
Au goutte à goutte.
Au goutte à goutte.
Moi, je vois ce livre comme un guide, finalement. Hein. Si quelqu'un dans mon entourage est frappé par cette maladie, je vais probablement lui offrir, parce que c'est une façon de dire, déjà, Je crois aujourd'hui que les chiffres sont plutôt positifs. Hein, quand un cancer est pris tôt,
oui.
Les chances de que ça se passe bien sont plutôt bonnes. Mais pour autant, c'est quand même un monde qui s'effondre, quelque chose qui semble absolument insurmontable qui arrive. Et puis en tirer quelque chose de positif comme vous le faites, ça peut accompagner des gens. Quoi.
Mm-hmm. Ouais, alors le terme guide, moi, je trouve que c'est toujours un petit peu fort parce que c'est un angle de vue et c'est un témoignage. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu besoin de me documenter. Donc, je suis allée acheter des livres, des romans, j'ai écouté des podcasts, j'ai évité d'aller sur Internet pour éviter les nouvelles un peu dramatiques.
Je ne suis pas médecin, mais bon réflexe, je crois.
Ouais, c'est pas dingue. Sans tout. Je crois que c'était mieux comme ça, effectivement. Et puis du coup, moi, ça m'a... D'aller sur Instagram aussi, il y a des personnes en fait, qui racontent un peu leurs histoires qui font du bien. Et moi, tous ces témoignages, toutes ces choses que j'ai lues, ça m'a beaucoup porté. Et j'ai eu envie de mettre ma pierre à l'édifice en fait, de tous ces témoignages et puis offrir aux personnes à vivre ça un angle de vue.
Ouais, je dis guide, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a quand même quelque chose. On apprend plein de trucs. C'est pas seulement vous êtes Adam, hein, vous traversez cette épreuve comme toutes celles et tous ceux, parce qu'il y a aussi des cancers qui touchent les hommes, hein, qui traversent cela. Mais vous nous expliquez ce que c'est qu'un scanner, ce que c'est qu'un PET scan, ce que c'est. Vous êtes fait coacher d'ailleurs, hein, je crois, par un médecin.
Il a relu un petit peu, il a corrigé mes définitions, absolument.
Qui sont très vulgarisées, mais très utiles.
Ouais.
Moi, j'ai pas de cancer, mais j'ai appris des trucs bestioles dans lesquelles j'avais dû entrer, hein, un scanner par exemple.
Oui. Ouais, ça c'était pour moi c'était important aussi parce que j'avais envie de faire un ouvrage qui soit accessible en fait à la majorité des gens où il y ait des définitions qui soient simples à comprendre. Ça me tenait à cœur d'essayer de faire l'ouvrage que j'aurais bien aimé avoir entre les mains en fait quand j'ai eu la nouvelle.
C'est pour ça que je dis que ça peut être un ouvrage de salle d'attente, hein, qui peut être là pour aider les gens. Je ne soyez pas, je sens que c'est un petit peu gêné.
Oui, je suis contente. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'était un peu ce que je souhaitais rendre et puis du coup que ça parle comme ça, ça me touche, ça me fait plaisir. Je suis contente.
Oui, parce qu'il y a il y a des choses extrêmement médicales, c'est-à-dire on apprend des choses très concrètes sur les procédures qui vont vous être appliquées. Hein.
Oui.
Comment un produit peut brûler les veines, comment un scanner fonctionne, ou du moins de façon simplifiée. Hein. Vous vulgarisez ça, évidemment. Et puis, on apprend aussi comment vous vous êtes confronté à la fatigue, quels sont vos remèdes, qui sont les vôtres. Hein. Ah, ça, c'est pas des méthodes universelles, évidemment. Le fait de se rouler en boule dans son lit et d'écouter telle ou telle musique, c'est chacun selon ses méthodes. Mais vous mettez en avant, justement, votre expérience, il y a de la pédagogie, puis il y a de l'expérience personnelle.
Ouais, et puis c'est la musique, c'est un gros poste. Hein. J'ai énormément écouté de musique en étant en boule, là, en hérissonnade dans mon lit à attendre que les effets secondaires de la chimio passent. Et c'était bénéfique, c'était merveilleux. Et en parlant autour de moi, il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah ouais, tiens, bonne idée ». Donc voilà, du coup, j'ai un peu mis les musiques que j'écoutais, la playlist aussi dans le livre. Et puis c'était bien ça.
La musique comme un vrai refuge. Hein. Oui. Vous avez des maux de tête ? Je me disais, la musique, est-ce que ça marche toujours ou...
Oui, alors il ne fallait pas la mettre trop fort. Mais tout
pas
doucement, c'était... Non, pas de casque.
Surtout pas.
Non, ça allait. Ça, c'était vraiment bien, la musique. Bon. C'était vraiment porteur.
On va en écouter de la musique entre les deux parties de cette émission. On se retrouve dans un instant.